Alors, il est 6h03, nous sommes jeudi 20 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, ça commence par un matin frais, cette journée, avec un ciel nuageux. Et les nuages vont se poursuivre une bonne partie de la matinée. Il y aura un mélange aujourd'hui de soleil et de nuages avec un maximum de 19. Bon, on a 10 degrés ce matin, ce qui veut dire que c'est quand même assez frais. Pour ce soir, du temps couvert, la pluie va commencer au cours de la nuit avec un minimum de 13. Vendredi, des averses qui vont cesser en après-midi, ça demeure nuageux, puis un risque d'orage tôt demain matin ou encore en début d'après-midi. Des vents qui sont quand même importants, jusqu'à 60 km/h le matin, maximum 23 degrés. Pour le week-end, samedi, belle journée, du soleil autour de 18. Et pour dimanche, on prévoit de la pluie intermittente et un maximum de 15 degrés. Commençons par la politique, parce que ce matin, on publie un sondage de la maison Crop. Et c'est un sondage qui va vous faire réagir, c'est clair. Voici le résultat, puis je ne veux pas vous inonder de chiffres, je vais me contenter de vous en donner deux. Le Parti libéral est à 37 %, la Coalition Avenir Québec est à 30 %, le Parti québécois à 16, Québec solidaire est à 14. Et quand on compare avec le CROP du mois d'août, le Parti libéral a fait un bond d'un point, la Coalition Avenir Québec aurait perdu 8 points, le PQ plus 1 et Québec solidaire plus 4. Premier chiffre qui est important. Le deuxième, c'est évidemment l'intention de vote du côté des francophones. Alors, première place, c'est la coalition Avenir Québec à 35. Le Parti libéral serait à 29. Le Parti québécois à 18. Et Québec solidaire est autour de 16. Alors là, vous allez me dire, ça n'a pas de bon sens. On a vu des sondages qui ont été publiés, Main Street, entre autres. Ce qui est vrai, et l'écart est évidemment beaucoup moins important. Alain Juguère de la Maison Crop sera avec nous tantôt, et c'était le phénomène qu'on avait aussi remarqué des différences avec d'autres maisons de sondage, et son affirmation, c'est que les autres firmes ont tendance à sous-estimer le vote libéral. C'est que les gens disent pas haut et fort nécessairement qu'ils vont voter pour le Parti libéral. Puis il y a des gens qui sont plus discrets, des gens qui répondent pas et qui, dans le fond, veulent pas s'identifier. Et Robert Bourassa appelait ça la prime de l'urne, c'est-à-dire que des gens qui n'apparaissent pas dans les sondages comme étant des sympathisants au Parti libéral, mais quand arrive le moment de voter, quand ils sont dans l'isoloir, ben ils votent libéral. Ce qui est sûr, par contre, c'est que la coalition Avenir Québec est dans le trouble. C'est-à-dire qu'on est à quelques jours du vote par anticipation. Il reste un peu plus d'une semaine à la campagne électorale. C'est le débat ce soir. Et c'est sûr que c'est François Legault qui est sur la sellette, là. Hier, il n'a pas fait campagne. Il s'est préparé avec ses conseillers pour le débat. Et c'est un débat majeur, là. Je ne dis pas que tous les Québécois vont regarder ça du début à la fin, mais c'est l'impression générale qui va se dégager du débat, qui, je pense, va avoir un impact. Alors, c'est sûr que là, je regardais ce matin les spécialistes en communication, puis voici ce que M. Legault doit faire, puis voici ce que M. Couillard doit faire, puis M. Lisée, Mme Massé, qui d'ailleurs sera notre invité un peu plus tard ce matin. Il faut que M. Legault ait l'air d'un premier ministre, axé sur l'économie, il faut qu'il parle aux gens directement, il ne faut pas qu'il se trompe, il ne faut pas qu'il s'accroche, il ne faut pas qu'il se plante quand il explique ses politiques, il ne faut pas qu'il ait l'air trop agressif. Ce matin, je pense, c'est dans deux gazettes, on raconte que Véronique Yvon a écrit une note à Jean-François Lisée en lui disant comment faire. C'est sois pas agressif, regarde les gens, sois calme, aie l'air d'un chef d'État, monte pas le ton. T'sais, le genre de commentaire, là, t'sais, sois pas trop condescendant. Et est-ce qu'on va éviter la cacophonie ce soir qu'on a connue au premier débat? C'est une très, très bonne question. Alors que Manon Massé, qui a eu moins de temps, disons, a regardé les autres se tirailler. Remarquez que sa position, à elle, est quand même plus confortable. D'abord, c'est pas la première ministre sortante. Deuxièmement, elle ne fait que présenter des engagements de Québec solidaire. Bon, elle va attaquer le Parti libéral, le gouvernement, elle va attaquer aussi un peu, mais son idée, son plan de match depuis le début, c'est de dire voici en quoi nous sommes différents, puis voici ce qu'on propose pour être plus équitable envers le monde. Alors, ça pour vous dire que le sondage ce matin, puis il y en aura d'autres là, d'ici le vote, là. C'est un portrait. Et le portrait nous montre quoi? Que les libéraux sont pas morts. Que la coalition Avenir Québec demeure la mieux placée pour ce qui est du vote francophone. Donc, c'est un atout. Et ça montre aussi des luttes serrées, probablement, dans plusieurs circonscriptions, puis des luttes à trois, puis même, dans certains cas, des luttes à quatre. Et que les Québécois n'ont pas fait leur choix final. On voit que c'est pas encore 100% béton. Ça m'apparaît comme étant les grandes lignes du sondage qu'on va commenter, bien sûr, avec Bernard, nos commissaires, et je vous le disais, M. Giguère de Crop, qui sera avec nous. Puisqu'on parle de la campagne, comme je vous disais, les engagements, c'est pas mal terminé. Là, il y a des trucs qui se rajoutent. Et hier, on a vu justement les gens de la CAQ, les candidats, sortir pour montrer leur appui au chef. Parce qu'il y a différentes façons de faire campagne. Tu peux mettre l'équipe en évidence, tu peux mettre le chef en évidence. Et là, ce qu'on a fait, ben, c'est qu'on a mis vraiment le chef, M. Legault. Et là, vous avez vu Yann Lafrenière, Sonia Lebel, les candidats vedettes. Et là, Mme Lebel a dit quelque chose qui a suscité beaucoup de réactions. Je suis arrivé ce matin, j'ai ouvert ma boîte de courriel, puis les gens n'étaient pas contents. Ça ne dure pas longtemps, mais écoutez bien.
Pour une fois, les Québécois réfléchissent.
Pour une fois, les Québécois réfléchissent en se préparant à voter. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on n'est pas pris dans le débat souverainiste, fédéraliste, oui, non, où on ne va pas débattre nécessairement des enjeux, mais on va voter pour le PQ si on est pour la souveraineté. Si on est contre, on ne veut pas que le PQ prenne le pouvoir, on vote libéral. Autrement dit, le débat constitutionnel, référendaire, qui était toujours présent dans chacune des campagnes électorales, puis c'était la force des libéraux de ramener ça. Rappelez-vous, la dernière fois, Mme Marois déclenche l'élection, présente Pierre-Carl Péladeau le poing en l'air, puis qui nous parle du pays. Là, les libéraux ont sauté là-dessus en disant « Vous n'en voulez pas, hein? Vous n'en voulez pas de référendum? » Et ça a permis aux libéraux, donc, de remporter l'élection. Alors, j'ai plus l'impression que c'était, pour une fois, qu'on peut débattre de d'autres enjeux. Mais disons que c'était peut-être pas très bien formulé. En tout cas, les électeurs, plusieurs d'entre eux, ont réagi assez fortement, je dois vous dire. 6h11, marque les points chauds. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous tente de crier ce matin? On parle souvent du prix de l'essence, puis l'augmentation, puis dans la composition du prix de l'essence, vous avez bien sûr les taxes. Et il y a la taxe carbone. Et l'argent est versé au fonds vert. Et là, on parle de centaines et de centaines de millions. Le Devoir nous apprend ce matin que des millions sont dépensés en pure perte, que de nombreux projets financés par le fonds vert devraient être stoppés. Pas la première fois qu'on signale le problème. Donc, le fonctionnement du plan d'action sur les changements climatiques du Québec comporte de sérieuses lacunes. C'est le conseil de gestion du fonds vert, dans un rapport confidentiel que le Devoir a obtenu, qui fait cette affirmation. Non seulement il s'appuie sur des actions discutables, qui coûtent des centaines de millions, mais qu'en plus, la gestion est inefficace, caractérisée par un manque de rigueur de nombreux ministères. Ce plan ne garantit d'ailleurs pas l'atteinte des objectifs de la réduction des gaz à effet de serre. C'est un panier percé. Et pour vous donner juste un exemple, le rapport dit que des 183 actions mises en œuvre par 15 ministères et organismes, où on est supposé contribuer donc à la réduction des gaz à effet de serre, plus de la moitié doivent être arrêtées dès maintenant ou encore sont à réévaluer parce que l'information à leur sujet est incomplète ou absente. Le budget total est de 2,2 milliards de dollars, dont 1,1 milliard avait déjà été dépensé en date du 31 mars. C'est à coût de centaines de millions que le fonds vert s'alimente. C'est un goinfre. C'est un trou sans fond. Et l'argent est dépensé pour un paquet de niaiseries. Et à chaque fois, là, je me souviens de la liste qui avait été publiée. On a donné de l'argent à Air Canada. Puis tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. Et je me souviens qu'à l'époque, le ministre, M. Hurtel, d'abord, l'introduction de la taxe, en disant qu'on a la fameuse taxe du carbone, avait dit, vous savez, les compagnies vont finir par l'absorber. Ce qui n'est pas vrai, c'est que les compagnies pétrolières, évidemment, nous refilent la facture. Donc, ça s'ajoute. Et le gouvernement va chercher ces centaines de millions dans vos poches. Et tout ça pour combattre les changements climatiques. Personne n'est contre ça. Jusqu'au jour où tu t'aperçois qu'il n'y a aucune rigueur. Et là, c'est pas partisan comme déclaration. C'est le conseil de gestion du Fonds vert qui s'est fait mandater justement après qu'on ait sorti la liste de conneries qui étaient subventionnées par le Fonds vert. J'ai hâte de voir la réaction des chefs au débat ce soir. C'est comme si, parce que c'est le Fonds vert, là, tu ne peux pas dire quoi que ce soit, c'est pour une bonne cause, c'est une farce depuis le début. Et comme beaucoup d'autres initiatives du même genre. Parlons un peu d'argent. D'abord, ce matin, on apprend dans le Journal de Montréal que le président du Collège des médecins, le docteur Charles Bernard, reçoit 643 212 $ comme rémunération, ce qui le place évidemment devant tous les autres présidents, présidentes d'ordre professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que, là on dit « OK, c'est un médecin ». Si on veut attirer un médecin, donc, pour qu'il s'occupe de son ordre professionnel, qui, en passant, dont le mandat est de protéger le public, bien, il faut le payer comme un médecin. Il ne viendra pas faire moins d'argent. Sauf que lui, c'est un médecin omnipraticien et il fait à peu près 200 000 de plus que la moyenne des médecins. Et pas mal plus aussi que certains médecins spécialistes. Alors, tu te dis, c'est quand même pas mal d'argent. Et là, on justifie en disant que le Collège des médecins, qu'est-ce que vous voulez, on compare avec les présidents de syndicats, fait que c'est sûr que le président de la Fédération des médecins spécialistes, ça doit être 700-800 000, puis bon. Titre de comparaison, l'ordre des comptables, c'est un peu moins de 400 000, l'ordre des ingénieurs, 235 000, l'ordre des infirmières, quand même, 195 000, l'ordre des psychologues, 184 000. Alors, vous avez comme ça la liste. Et on nous dit que le remplaçant, le successeur du docteur Bernard, lui va faire moins d'argent parce que là, il y a des changements à la loi, puis il n'aura pas à combiner le poste de DG. Le docteur Yves Lamontagne, qui a été président, il dit que dans son temps, lui, il faisait à peu près 350 à 400 000. Ça, c'est en 2010, fait 8 ans. Il dit, en gros, c'est un peu surpris, mais en même temps, on s'est peut-être ajusté suite aux augmentations de salaire. Et puisqu'on parle d'argent, on va vous présenter une entrevue ce matin au sujet des frais vétérinaires. Et c'est Marie-Andrée Carrier, qui est médecin spécialiste en microbiologie, infectiologue également, et qui s'est rendue à la clinique DMV de Saint-Hubert. Là, on comprend, là, c'est une clinique d'urgence, faire soigner sa chatte de 4 livres qui était en état de choc septique post-opératoire. Puis là, c'est pas le rendez-vous à la clinique traditionnelle. C'est vraiment là, et tu sais que tu vas payer plus cher. C'est accessible en tout temps. L'animal a été hospitalisé pendant 18 heures. On lui a administré des antibiotiques, réhydraté avec un soluté. Ça a coûté 900 $. La facture était cependant plus élevée. On parle de 1200 $. Donc, c'était plus cher. Et là, ce qu'elle a fait, puis là, on ne parle pas de la compétence puis du service qui a été rendu. Des analyses qui sont de 50 à 100 plus élevées que le coût réel. Quelques exemples. 158 $ pour une culture de plaies qui recherche deux types de bactéries alors que ce test coûte environ 15 $ à réaliser en laboratoire. Puis là, vous me direz, c'est une clinique privée. Mais tu sais, de 15 à 158, c'est quand même pas mal. D'autres exemples, un médicament qu'on a administré, 27,52 la fiole, alors que le coût du médicament en pharmacie est d'environ 17 $ pour une dose adulte. Et la liste est longue comme ça. On va aussi parler avec l'Association des médecins vétérinaires. Puis là, l'affaire qui était un petit peu achalante, c'est qu'on suggère des grilles tarifaires, aux vétérinaires. En disant, on pense que pour tel acte, tel produit, vous devriez charger tant. On dit, as-tu moyen de voir ça? Réponse, non. Puis d'autres personnes qui me disent, on a par exemple un estimé, puis là, la facture explose. Puis là, on comprend qu'on est dans la sensibilité aussi. Là. C'est ton chien, c'est ton chat, c'est ton animal. Puis, et encore là, j'insiste, c'est pas une question de compétence. Alors, recommandation, il faut pratiquement magasiner sa clinique vétérinaire. Parce que les coûts varient et ça peut être très cher dans certains cas. Donc, ce matin, on va vous parler de ça. Pendant que les animaux sont bien traités, nous avons ici des patientes dans un centre et des patients dans un centre de soins de longue durée à Drummondville, des résidents du centre Frédéric-Georges Hériot, qui ont été privés de bain pendant 29 jours. Vois-tu bien? C'est dans le Journal de Montréal. Pourquoi? Manque de personnel. Donc, il y a deux femmes âgées qui ont reçu un bain le 18 août et qui ont dû patienter jusqu'au 14 septembre pour avoir un deuxième bain. Un autre résident a reçu un bain le 12 septembre après 25 jours d'attente. Est-il besoin d'insister sur les conditions climatiques de cette période de la mi-août jusqu'à la mi-septembre? Mettons que c'était chaud. Mettons que c'était humide. Les documents prouvent également que de nombreux résidents ne reçoivent pas un bain par semaine. Alors, vous avez entendu comme moi les promesses de deux bains. Tous les partis, je ne sais pas comment ils vont réussir, parce que là, il y a un manque flagrant de personnel. Et je ne recommencerai pas le débat là-dessus, là, mais c'est inacceptable, point final. Ça n'a aucun sens. Rappelez-vous, il y avait ce mémo qui, justement, pour éviter le temps supplémentaire, pour deux raisons, d'abord, coûte cher, puis surtout parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas en faire, là. Bien, dans le réaménagement de l'horaire, le couper un peu sur les bains, puis c'est pas grave, hein? La personne est âgée, peut pas trop chialer. Fait qu'on peut passer rapidement. Aussi, dans le Journal de Montréal ce matin, des villes qui vont bannir le pot en public, dans tout l'espace public, il y en a au-dessus d'une trentaine, qui ont décidé vraiment là, d'adopter la ligne dure. Ça veut dire quoi? Tu pourras pas consommer du cannabis dans les parcs, sur la rue, même sur les trottoirs. Interdiction totale, et c'est à 100%. Autrement dit, si tu veux consommer du pot, tu feras ça chez vous et pas dans des lieux publics. Alors, parmi les villes, on retrouve Sherbrooke, Saint-Jérôme, Granby, Lassalle, Repentigny, Saguenay, Chambly, Blainville, Mascouche, Victoriaville, Val-d'Or et La Chute. Et d'autres villes également sont en réflexion. Là, évidemment, comment tu vas faire appliquer le règlement? Ça, c'est une maudite bonne question. Les amendes qui peuvent varier de 50 à 1000 $. Est-ce qu'on va dire aux policiers d'intercepter quelqu'un qui fume un joint assis sur un banc de parc? Théoriquement, oui. Est-ce qu'on va faire une certaine tolérance? C'est une assez bonne question, mais disons que c'est assez compliqué. Il y a eu ce rapport également sur les droits des manifestants qui ont été brimés au sommet du G7. C'est le rapport d'une mission d'observation d'Amnesty International et de la Ligue des droits et libertés qui disent finalement que le déploiement policier était excessif au sommet de Charlevoix et qu'on a créé des entraves non justifiées. C'est beau la sécurité, on comprend, mais qu'on a donc limité le droit d'expression. Et aussi ce matin, il y a Julie Boulay qui, paraît-il, pense, en tout cas n'exclut pas, un retour en politique. Alors, elle dit qu'elle pourrait revenir peut-être dans l'univers municipal. Elle dit « j'ai pas fermé la porte à ça ». On sait que ça s'est mal fini avec le Parti libéral. Elle s'est chicanée avec les ministres, puis le premier ministre. Elle devait se présenter, c'était fait, puis finalement, elle a décidé de se pousser. Ça fait le tour, 6h23. L'autoroute 13.